La semaine dernière, Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël s'apprêtait à étendre ses opérations militaires à Gaza, l'occasion pour nous d'analyser cette situation géopolitique d'Israël suite à cette annonce avec Daniel Haber. Il est au micro de Blaise Van Der Linden.
Daniel Haber, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin pour nos traditionnelles conversations du lundi matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, la semaine passée, Benjamin Netanyahou l'a annoncé, Israël va étendre la guerre à Gaza. Que cela signifie-t-il, vous qui êtes habitué à décrypter ce genre de la situation géopolitique d'Israël actuellement?
Si on veut comprendre les décisions du gouvernement israélien, il faut intégrer trois facteurs. Le fait qu'Israël a deux ennemis très particuliers et il fait face à une méthode de guerre qui est également particulière. Je rappelle qu'Israël est le seul pays au monde dont l'existence même est constamment menacée depuis 80 ans et qu'on sait que ça peut encore continuer encore un peu de temps. Alors d'où viennent justement les menaces? Elles viennent de deux ennemis différents. Un ennemi direct et un ennemi indirect. L'ennemi direct, c'est le Hamas, mais le Hamas n'est que la partie émergée d'un immense iceberg qui s'appelle l'islamisme. Il faut toujours rappeler que l'islamisme mondial, celui des frères musulmans, l'islamisme sunnite, refuse même l'idée qu'il puisse exister un État juif au Moyen-Orient. C'est tout simplement impensable pour eux. Et donc, si le Hamas gagnait quoi que ce soit, ça ne ferait que repousser l'échéance. L'islamisme serait au travail immédiatement pour menacer à nouveau Israël. Ça, c'est l'ennemi direct. Il y a un ennemi indirect. C'est l'Occident, ou plutôt la partie faible de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, qui est au fond la première cible de l'islamisme en dehors du Moyen-Orient. C'est là que les frères musulmans font ce qu'on appelle de l'entrisme, et donc l'islamisme a pénétré plusieurs couches de la société occidentale, et cet Occident refuse de prendre en compte et dans le déni, ne veut pas voir et ne réagit pas. Et quand il voit qu'Israël réagit, il mesure le coût de cette réaction, parce que c'est terrible de devoir se battre contre l'islamisme, faut mettre beaucoup de moyens, faut accepter beaucoup de sacrifices et surtout de se faire insulter par une grande partie des pays du monde qu'on appelle le Sud global. Et donc, pour cette raison, l'Occident, refuse de non seulement de réagir pour lui-même, mais condamne Israël plutôt que les islamistes et le fait avec une sorte de lâcheté, de cynisme qui en fait un ennemi indirect assez épouvantable et nous le vivons aujourd'hui. Et puis il y a une méthode qu'il faut jamais oublier, c'est que l'islamisme a compris qu'il pouvait pas gagner la guerre militaire ni la guerre économique, donc ils ont inventé la guerre de communication, ou plutôt ils ont repris cette guerre de communication, l'ont étendue. Et cette guerre de communication, elle fonctionne devant nous et elle fonctionne bien. C'est-à-dire Israël est en train de perdre cette guerre de la communication. Non seulement l'Occident vacille sur ce qui est bien et ce qui est pas bien, mais une partie des Juifs en Occident ne sait plus très bien qui il est, qui ils sont et où ils sont. Et une partie même des Israéliens juifs vacillent eux aussi et ne savent plus très bien où ils en sont. Donc voilà un petit peu une situation de lourde pour Israël.
Face à toutes les pressions que le gouvernement israélien connaît, peut-il céder à comprendre, céder aux exigences du Hamas pour obtenir un cessez-le-feu?
Oui, donc cesser le feu maintenant aux conditions du Hamas, c'est céder à cette pression internationale, y compris de ce qu'on appelle les ennemis indirects, qui devraient être nos amis. Moi, je ne crois pas qu'ils vont céder. La preuve, c'est que le gouvernement a décidé d'étendre les opérations militaires à Gaza. Pourquoi? Parce que l'histoire d'Israël, c'est la résistance. C'était vrai dans l'Antiquité, les Maccabées, les Zélotes, Bar Korba. Plus récemment, dans l'Israël moderne, c'est Ben Gourion, c'est Golda Meir qui, devant les malheurs et les détresses, ont toujours su réussir. Alors, il faut jamais oublier que tous ces résistants juifs ont été critiqués, non seulement les extérieur, mais de l'intérieur. Donc tout ça est une vieille histoire et qui ne change pas. Si Israël résiste et si Israël est capable de résister, c'est parce qu'il a une vision qui est beaucoup plus large que simplement l'ennemi immédiat. Pour Israël, se battre avec le Hamas, c'est pas le bout du monde. Le Hamas n'est qu'une guérilla qui est suicidaire et fanatique. Derrière le Hamas, il y a tout cet islamisme mondial dont je parlais. Je rappelle que pour vaincre des ennemis suicidaires et fanatiques, faut aller loin. Les nazis et les fascistes japonais ont résisté jusqu'au bout. Il a fallu détruire complètement leur pays en 45 pour les vaincre. Et donc, si vous comparez l'Allemagne de 45 détruite et le Japon de 45 après les deux bombes atomiques, Gaza, c'est rien à côté. Les destructions de ces deux. Donc, c'est ça qu'il faut intégrer, le fait que face au fanatisme, il faut aller malheureusement très loin. Et puis, dernier point, c'est que Israël a bien compris que nous vivions dans un monde sans pitié, hein, où c'est la force qui domine. Et tous ceux qui font sans cesse appel à ce qu'on appelle le droit international se moquent de nous. Le droit international n'est évidemment ni défendu ni respecté par personne. Il est certainement seulement instrumentalisé par les ennemis d'Israël. C'est tout.
Puisque vous expliquez qu'Israël ne cédera pas, que vous êtes plutôt optimiste par rapport à cela, quelle est justement la vision d'Israël sur la géopolitique mondiale et sur le futur?
Écoutez, pour Israël, il regarde la carte du monde et il voit qu'il y a deux camps, hein. Il y a d'un côté les Américains qui ont décidé de ne plus se laisser déborder par d'autres puissances contestataires, donc de redevenir forte, hein, MAGA, Make America Great Again, en face. Et donc ces Américains cherchent des alliés. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui sont prêts, comme les Américains, à se battre jusqu'au bout. Il n'y a qu'Israël. C'est pour ça qu'Israël est un allié précieux pour les Américains, autant que les Américains sont un partenaire précieux pour Israël. Et puis en face, vous avez les contestataires. C'est les Russes, c'est les Iraniens, c'est les Coréens du Nord. Et puis il y a la Chine qui semblait prendre un petit peu ses distances parce qu'elle n'est pas dans les mêmes contestations que la Russie ou l'Iran. À l'occasion de la guerre en Ukraine et la guerre au Moyen-Orient, a quand même pris fait et cause pour les puissances contestataires, ne simplement parce qu'elles s'opposent aux États-Unis, ou plutôt les Américains s'opposent à la Chine. Donc vous avez ces deux camps. Et entre les deux camps, vous avez au fond deux blocs. Vous avez les pauvres, ce qu'on appelle le Sud global, et les riches, c'est-à-dire l'Europe. L'Europe avec la Grande-Bretagne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le Sud global, lui, il est divisé. Il y a un bloc central qui sont les pays musulmans qui eux-mêmes sont divisés, parce que si vous regardez un pays comme l'Indonésie ou même les Arabes sunnites, ceux qui ont signé les accords d'Abraham ou qui pourraient les signer comme l'Arabie saoudite, et ils sont pas du tout hostiles à Israël, ils sont prêts à coopérer. Donc vous avez un Sud global qui est la majorité des pays du monde, qui est divisé, et puis vous avez cet Occident dont on a déjà parlé, qui, au fond, son problème, c'est comment éviter d'être vassalisé par les États-Unis. Donc il cherche désespérément, ces Européens et ces Britanniques et ces Australiens, à avoir une sorte d'autonomie stratégique. Et la seule façon qu'ils ont trouvée, c'est de dire, nous sommes en fait les anciens colonisateurs. Alors essayons de nous faire pardonner en nous rapprochant du Sud global. Et se rapprocher du Sud global, c'est s'éloigner des États-Unis et c'est prendre Israël comme cible de leur critique. Et ça, Israël l'a bien compris. Et donc, Israël se positionne par rapport à cette grande configuration, confrontation mondiale, en se disant que la force d'Israël, c'est la puissance technologique, et que l'allié naturel, c'est l'Amérique. Donc les camps qui se profilent, c'est un camp de gens qui ont compris que la technologie a être le nerf de l'avenir, et qui sont prêts à s'allier. Donc il y aura les États-Unis, il y aura Israël, il y aura peut-être les Arabes sunnites, il y aura peut-être même aussi l'Indonésie. Donc tout n'est pas perdu. Et c'est un peu la carte que joue Israël, et qui est évidemment pas facile à jouer.
Daniel Haber, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nos conversations sur Radio Judaïka et on vous retrouve la semaine prochaine.
Au revoir, à la semaine prochaine.